9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En bientôt 77 ans, le quotidien Le Monde est devenu une institution, même une référence en matière d'information. En 2000, Le Monde lançait pour la première fois un magazine, ça s'appelait Le Monde 2, mensuel qui deviendra ensuite un hebdomadaire. Et puis après, une éphémère formule du Monde Magazine sera lancée en septembre 2011. M, le magazine du Monde, un M devenu sa propre marque avec son propre logo. Un magazine pour offrir du temps long aux enquêtes, mais également pour faire la part belle à la beauté, à l'art de vivre, aux arts et au goût. Le goût de M, eh bien c'est le nom d'un numéro collector du magazine que vous trouverez aujourd'hui en kiosque avec quatre couves différentes. Bonjour Marie-Pierre Lannelong.
Bonjour Philippe.
Le titre officiel, c'est vous êtes directrice adjointe des rédactions du Monde, mais vous êtes surtout la patronne, la rédactrice en chef de M, le magazine. La dernière fois que nous étions vus ici, vous sortiez votre 500e numéro avec une une toute blanche, immaculée. Aujourd'hui, vous êtes l'invité pour notre 500e. Donc le numéro 500 porte bonheur.
Absolument, absolument. Bon anniversaire à vous, du coup.
Merci beaucoup. Depuis le numéro 500, vous avez soufflé les 10 bougies du magazine. C'était en septembre. Comment se porte le magazine avant qu'on en vienne au fond?
Il se porte très bien. Il se porte très bien en diffusion. Il se porte très bien aussi en diffusion numérique. Parce que chaque semaine, les contenus de M apportent des abonnés au monde, à la grande maison.
Parce que quand on s'abonne pour le monde, on a M. Et quand on s'abonne à M, on a le monde.
Exactement. Et puis surtout, quand on s'abonne aussi parce qu'on est attiré par des contenus, par des papiers, des articles, des portraits, des récits. Et donc, à ce jeu-là, entre guillemets, les contenus du Monde se classent très très bien et apportent effectivement leur lot d'abonnés chaque semaine. C'est une grande satisfaction.
434 000 exemplaires divisés chaque semaine en 2020-2021, plus 31% par rapport à l'année précédente. Vraiment bravo. Pour célébrer cet anniversaire, il y a un numéro collector qui est rebaptisé Le Goût de M. Pourquoi vous publiez ce nom sous ce nom? C'est quoi l'idée?
Ça fait un petit moment déjà qu'on développe cette idée de label Le Goût de M. Ça fait 3 ans qu'on a lancé notamment un podcast qui s'appelle Le Goût de M, qui explore les histoires de goût de différentes personnalités. Et c'est vrai que 10 ans après, on a envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Et il nous semble que développer le lifestyle, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on imagine sous la bannière du Monde, parce que le Monde, c'est sérieux.
Chiant, disait Dove Mary, si c'est vrai.
Oui,
je
ne
sais pas si c'est apocryphe ou si c'est vrai.
Faites intéressant, moi je dirais aujourd'hui, faites intéressant.
Oui, mais dans les rédactions, on nous disait Le Monde, Dove Mary, quand il a créé Le Monde, il disait à ses rédacteurs, faites chiant.
Eh bien, Le Monde, aujourd'hui, c'est tout sauf chiant. Et Le Goût de M en est la preuve, en fait. Parce que sous la bannière du Monde, dans les gens qui viennent s'abonner ou qui lisent, il y a aujourd'hui toutes sortes de contenus. Et on parle de bouffe, et on parle de sexualité, et on parle de vie quotidienne, et on parle de culture. Tout comme on parle de société, des procès du 13 décembre. Donc en fait, le monde, il a beaucoup changé. Et Le Goût de M, ça vient entériner l'idée que le monde a changé et que ce qu'on lit sous la bannière du monde, c'est pas simplement du chiant. Et surtout pas du chiant, en fait.
Parfois, c'est pas facile de vous suivre parce que le monde, c'est à la fois le monde dans lequel on vit et c'est le monde, le journal. Donc, c'est comme quand on travaille à l'équipe.
Ah oui.
On sait jamais si on parle de l'équipe ou de l'équipe.
Ou de l'équipe, voilà.
Dans votre édito,
Le monde a changé à double sens. Le monde dans lequel on vit et le monde, le journal.
Dans votre édito, Marie-Pierre Lannelong, vous écrivez: n'en déplaise à certains de nos lecteurs pour lesquels une image de mode est une image de trop ou qui saute les pages quand il est question d'objets de design, le lifestyle n'a jamais occupé la première place dans M. En gros, vous dites que le lifestyle, c'est pas forcément ce que préfèrent vos lecteurs et vous sortez un numéro 100% lifestyle.
Non, je dis que effectivement, pour la raison qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire l'aspect le monde, le journal, le lifestyle, c'est pas forcément ce qu'on vient chercher en premier. Et un certain nombre de nos lecteurs, il faut le dire, n'aiment pas la mode et nous disent il y a beaucoup trop de mode, il y a beaucoup trop de design. Or, c'est pas la vérité. En réalité, ces thématiques-là sont présentes 10 fois dans l'année dans des spéciaux. Sinon, elles sont à la fin du journal. On n'en a pas honte, mais enfin, c'est vrai que nous, on est le magazine du monde. Et Le Goût de M, c'est le goût du magazine du monde, en réalité. Et c'est ce pas de côté qui nous permet aujourd'hui de mettre... vous avez choisi l'œuf, je crois.
J'ai les quatre, mais la plus somptueuse, il y a une image de la Villa Médicis très très belle. Là, c'est de la mode, c'est une jolie fille en gabardine. Des objets de convoitise, on ne sait pas trop ce que c'est. Si c'est un billard photographié de très près ou alors
non,
des sièges.
Non, c'est le tabouret d'une créatrice française qui s'appelle India Madame. d'avis, mais effectivement, l'œuf, on sent que c'est déjà celle que tout le monde préfère. Parce qu'on a eu envie de parler de cuisine dans ce numéro, parce que s'il y a un plaisir quand même dans la vie, c'est de manger, et on s'en est rendu compte particulièrement pendant le confinement, et donc on a voulu revenir à ce qui est le plus important, la simplicité, et quoi de plus simple qu'un œuf, quoi de plus simple que les 4 ou 5 plats qu'on propose, qui sont des plats que vous connaissez par cœur, mais encore faut-il les réussir.
On l'a dit, ce que vous aimez c'est le beau, mais vous aimez le beau épuré. C'est ça la ligne visuelle du magazine.
En fait, nous on considère que le goût de M, et c'est pour ça que ça nous passionne aussi, c'est un ensemble de valeurs. Et que le goût d'une personnalité, ça la raconte. Je suis sûre que si on vous interroge sur vos goûts, ça vous raconte. Ça raconte d'où vous venez, ça raconte où vous allez, ça raconte ce que vous êtes devenu. Mais c'est aussi un ensemble de valeurs en fait. Choisir la simplicité, choisir l'authenticité, ce sont aussi des valeurs versus le bling-bling. Bien que le bling-bling nous intéresse journalistiquement, c'est vraiment un sujet à explorer, à exploiter, à raconter, ça raconte plein de choses. Le goût, en fait, c'est une aventure qui raconte énormément de choses. Dans la mode, dans la gastronomie, dans les voyages, dans les choix qu'on fait, dans les partis pris que l'on a.
Alors, les choix que vous faites, c'est parfois des longs papiers illustrés. Le magazine, il est très très beau, il est agréable à feuilleter. Souvent, les gens le gardent. Question qu'on a déjà posée au grand photographe, je trouve plus son nom, mais ça me revient à l'instant, Sébastien Salgado. Comment vous faites pour trouver du beau dans des reportages très durs? C'est-à-dire, un reportage à la jungle de Calais, où est le beau? Et est-ce qu'on n'a pas peur d'esthétiser la souffrance humaine?
On se pose pas la question du beau, on se pose la question du regard d'un photographe. Ça dit tout en fait, le regard d'un photographe. Et nous, on est un journal de signature pour les photos. On le voit dans ce numéro et avec des grands journalistes qui travaillent, Raphaël Baquet, Florence Aubenas, Ariane Chemin, Vanessa Schneider, j'en oublie. On se pose pas la question du beau dans la jungle de Calais, mais on voit immédiatement l'authenticité, la force d'un regard. Je ne sais pas si c'est ce que Salgado vous avait répondu, mais
Salgado, ça fait 30 ans qu'il répond à cette question parce que ses photos sont absolument somptueuses. J'invite tout le monde à les regarder. On voit ces grappes humaines qui sortent de la terre, de la fange, d'une carrière à ciel ouvert. C'est une souffrance atroce. Il bosse là du matin au soir dans des conditions terribles, pieds nus. Et c'est absolument, je ne peux pas dire autre chose, c'est splendide.
Bah c'est la force d'un regard. C'est la force d'un regard.
Oui, mais tout d'un coup, on se dit, on se met à admirer des gens qui morflent.
Je ne crois pas qu'on les admire de la même façon qu'on peut admirer, par exemple, une fresque à la Villa Médicis.
Bien sûr.
Je pense qu'on sait très bien la différence. Et que, bien sûr, on les admire, mais ça crée chez vous une émotion profonde. On sait ce qu'on regarde.
Mais je veux dire par là que vous êtes déjà posé cette question-là. D'avoir un regard d'une femme, ou je ne sais pas, vous voyez comme ce regard de cette Afghane, ou avec qui vous regarde ses grands yeux bleus, et on se dit c'est dingue, on dirait une photo de mode, et en même temps, c'est la souffrance totale et absolue. Et j'imagine quand on dirige un journal, on se pose ce genre de questions.
Je ne sais pas, je crois qu'on fait la différence assez vite, en fait, quand on est journaliste, et vous le savez, en fait. Donc, là d'où on regarde, la qualité du regard dit tout, en réalité. Moi, je ne crois pas qu'on voit que c'est une photo de mode, mais je me trompe peut-être, en réalité.
Il y a plein de visions, et je suis d'accord avec vous, c'est un sujet pas simple. Vous parliez d'un podcast, vous savez quoi, Marie-Pierre Lannelongue, on va l'entendre, on continue de parler de M, le magazine du monde, c'est le goût de M, et il y a du son. A tout de suite dans Culture Média.
Philippe Blondel.
Culture Média.
9h-11h sur Europe 1. 9h-11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Blondel.
En compagnie de Marie-Pierre Lannelongue, c'est la rédactrice en chef de M. M, c'est le magazine du monde. Un numéro spécial, le goût de M, uniquement centré sur l'art de vivre, le plaisir. Un numéro, 4 couvertures différentes. Et vous en parliez, le goût de M, c'est également le nom de votre podcast. Il est produit par Géraldine Saratia. Chaque semaine, une personnalité issue du monde de la culture, de la mode, du design ou de la cuisine raconte son histoire personnelle du goût. On va entendre un exemple, un extrait. La nouvelle saison démarre aujourd'hui avec la comédienne Valeria Bruni-Tedeschi. Elle se confie sur ses goûts vestimentaires, des goûts qui font débat autour d'elle.
Et les vêtements, c'est important pour vous?
Ah ouais, là aussi... C'est très sentimental aussi.
C'est vrai?
Ouais. Ma fille, elle trouve que je m'habille mal. Et beaucoup de gens autour de moi me disent que je m'habille pas bien et tout.
Et moi,
j'aime bien comment je m'habille mal.
Ça veut dire quoi, que vous habillez mal?
Bah, je sais pas. Par exemple, j'adore, moi, ce jogging. Je sais que si je me regarde dans un miroir, c'est peut-être pas génial, mais moi, il me plaît, il me rassure, il me dit plein de choses, il est très plein pour moi. Ouais. Mais bon, voilà, c'est mon goût à moi, après...
Mais vous avez l'impression que votre goût, il a quelque chose un peu décalée, en fait, pour plein de gens, ou c'est ça que vous voulez
dire?
Oui,
mais décalée, ça serait bien, parce qu'on pourrait dire elle a du style. Mais au lieu, on me dit carrément que je m'habille mal. J'aimerais bien qu'on me dise, ouais, elle s'habille décalée. Ça, c'est... Non, mais c'est vraiment pas très joli, parfois. Mais c'est pas grave.
C'est drôle, t'es pas mal habillée, t'es décalée. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Pourquoi avoir investi dans ce podcast?
On avait envie de tenter une aventure comme celle-là, comme beaucoup de journaux. On a démarré il y a 3 ans avec Géraldine Saratia. On a, alors, vous avez dit des personnalités de l'art. Mmh. Il y a aussi des écrivains. Il y a deux numéros qu'on peut réécouter, qui sont ceux d'Édouard Louis et de Lola Lafont, la romancière. Et voilà, c'est très intéressant parce que, comme je vous le disais, nous, on considère que le goût, c'est pas simplement l'expression du bon goût, mauvais goût, t'as bon goût, t'as mauvais goût. C'est surtout que ça raconte énormément de choses des gens. Et donc, on trouvait qu'à travers ça, on pouvait raconter. Il y a même une dimension sociale. Et c'est ce qu'Édouard Louis raconte très bien dans l'épisode qui date de la saison 1. Évidemment, la dimension sociale, et c'est tout le sens de l'œuvre d'Édouard Louis, les goûts dont on hérite, les goûts dont on a un peu honte, les goûts qu'on essaye de modifier à mesure qu'on grandit, qu'on s'élève ou qu'on s'imagine qu'on s'élève. Il y a ça dans Proust aussi.
Il y a ça dans Bourdieu, la distinction.
Et il y a ça dans Bourdieu.
Choisit tel ou tel goût pour se montrer à son avantage ou non.
Exactement. Et donc c'est ça qu'on avait envie d'explorer. Et puis c'est à la fois profond et très léger. Valéria Bruni, avec sa voix magnifique, dans l'épisode qui sera diffusé à partir de cet après-midi, elle dit aussi « on m'a déjà quittée parce qu'on me trouvait mal habillée ». Et alors on peut trouver ça complètement grotesque, mais en même temps, ça raconte quelque chose. Et effectivement, elle, dans la famille d'où elle vient, elle qui a fréquenté Patrice Chéreau, les plus grands artistes, qui est aussi une cinéaste, en fait, je trouve ça très amusant, très intéressant, très spontané, très profond, ce qu'elle dit sur le fait que sa fille trouve qu'elle est mal habillée, par exemple.
On est ici une émission média. Quel est le but pour un journal comme le vôtre, un magazine comme le vôtre, de vous lancer dans le podcast? Vous tentez quelque chose? Vous essayez de récupérer des gens? Vous êtes sur votre élan et vous continuez avec des journalistes qui peuvent faire plusieurs choses?
On a envie de tenter des choses, on a envie d'occuper plusieurs terrains. On sait qu'aujourd'hui, un média, c'est une marque et que forcément, il y a plusieurs terrains, plusieurs moyens d'expression. En fait, l'idée de cette année, c'est que Le Monde a lancé un podcast quotidien qui s'appelle L'Heure du Monde, sur lequel on revient sur des sujets d'actualité ou des grandes enquêtes ou des grands papiers, des portraits. Et le goût de M peut être, comme il y a M, le magazine du Monde, le goût de M peut être la déclinaison week-end et magazine de L'Heure du Monde. Voilà, une grande marque de médias comme Le Monde, effectivement, va sur plusieurs terrains. C'est assez amusant, c'est même très intéressant à faire comme exercice, même si c'est Géraldine Saratia qui est une productrice extérieure qui travaille avec nous.
En quel sens c'est intéressant et amusant?
Parce que justement, on explore de façon différente. Nous, par exemple, dans M, il n'y a pas d'interview. Jamais. Depuis le début, depuis 10 ans, il n'y en a pas. C'est un exercice qu'on ne pratique pas parce que moi, j'adore l'écriture, j'adore l'enquête, j'adore le récit.
L'interview, question-réponse.
Question-réponse, ça n'existe pas.
Mais quand il y a un portrait de quelqu'un, il y a l'interview, vous le faites parler.
Oui, mais ce n'est pas question-réponse. C'est un récit, en fait. On raconte, on écrit. Et on écrit long, vous l'avez dit. Donc, par exemple, une rencontre, comme dans un podcast, le fait qu'on entende l'interaction entre l'interviewé et l'intervieweur, comme c'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas pratiquer de façon un peu rigide, eh ben, ça nous permet là d'entendre la voix, le récit de la personne en direct, j'allais dire, sans la médiation du journaliste.
Est-ce que vous suivez les chiffres d'audience des podcasts? Ou est-ce que c'est comme ça, si j'ose dire, entre guillemets, sans être du tout péjoratif, c'est une danseuse?
Non,
c'est un exercice à côté, ou est-ce que vous regardez, vous suivez
l'audience? Non, pas du tout. Alors, vous allez me demander des chiffres, et je n'en ai pas. Mais
déjà, est-ce que vous les suivez?
Oui, bien sûr, on les regarde. On les regarde comme on regarde le nombre de followers du compte Instagram de M, par exemple, qui est quelque chose de très important pour nous.
Voilà. Vous connaissez?
Je sais que ça a augmenté de 53% en 2 ans, c'est ça?
Moi, j'ai 350 000, j'ai pas l'augmentation. Mmh. Et pourquoi vous avez choisi Instagram et pas TikTok? Ou pas encore? Ou bientôt?
Alors, on a choisi Instagram parce que, comme vous l'avez dit, M, c'est quelque chose de très visuel. Et c'est un magazine très visuel. La production photographique, mais aussi l'illustration, c'est très important pour nous. Donc, il nous a semblé que Instagram était vraiment particulièrement adapté parce que c'est vraiment le réseau de l'image.
En parlant d'image, la semaine dernière, votre une était consacrée à la féminité, à l'offensive, avec des photos très offensives, justement, de la mannequin Emily Ratajkowski. Le sous-titre « Fossile et ongles longs », c'était quoi la démarche de cette une? Celle-ci aussi, elle a fait parler avec des photos qui ont rappelé les grandes heures du porno chic, presque.
Alors, c'est vraiment...
Et donc, évidemment, on voit que c'est assumé.
C'est assez intéressant d'en parler après avoir parlé d'un numéro du goût, et qu'on peut considérer comme du bon goût. Aujourd'hui, effectivement, les codes de la beauté, notamment hérités du R&B, sont effectivement des codes très offensifs qu'on peut considérer comme un peu vulgaires. Les fossiles, les ongles longs, le corps très mis en avant. Je pense à Cardi B et à toutes les stars du R&B, mais c'est aussi le cas pour beaucoup de jeunes filles. Et Emily Ratajkowski, elle raconte ça, parce que c'est comme ça qu'elle est, c'est son look, c'est comme ça qu'elle assume. Mais en fait, cette féminité qui, a priori, peut avoir l'air d'être la féminité du fantasme sexuel des hommes, c'est en fait une féminité féministe. Et Emily Ratajkowski, c'est son cas, parce qu'en fait, elle a raconté dans un très long article du New York Magazine, très intéressant, très intelligent, elle a raconté qu'elle avait été l'objet d'une agression sexuelle quand elle était plus jeune. Elle a raconté aussi comment on avait volé ses photos. Et ce qui est très intéressant chez cette fille, comme ce qui est très intéressant chez les stars du R&B, mais aussi comme chez Aya Nakamura, par exemple, qui est un équivalent d'une star de R&B française, c'est qu'en fait, ça peut être très offensif, très tapageur, dans la façon dont on joue avec les codes, mais c'est des filles qui sont très puissantes, qui n'ont pas besoin des hommes et qui usent de la sexualité comme une façon de dicter leur loi aux hommes. Donc, ça, c'est très intéressant.
Et qui s'empare et qui retourne le code, Aya Nakamura, parce qu'ils ont parlé, qui est en une, et c'est une première du magazine Vogue. Un œuf au plat sur un crouton de pain, c'est la une, si j'ose dire, de goût de M, numéro collector de M, le magazine du monde. Merci beaucoup, Marie-Pierre Lannelongue, d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média pour en parler.
C'est moi qui vous remercie.